Question d'actualité.
Aujourd'hui à l'émission, vive le Québec libre 50 ans plus tard. Bonjour et bienvenue et merci d'être à l'écoute de cette émission. C'est Simon-Pierre Savard-Tremblay qui est avec vous en ce lundi 24 juillet. Une date importante, le 24 juillet dans l'histoire du Québec, car c'était la venue du général de Gaulle, la fameuse venue du général de Gaulle, où son discours à l'Hôtel de Ville de Montréal, du haut du balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal, s'était terminé par un « Vive le Québec libre ». Et ceci étant, peu importe ce qu'est l'option constitutionnelle de ceux qui l'entendent, de ceux qui analysent cet événement aujourd'hui, tous s'entendent sur le fait que ça a été un moment marquant qui représentait l'ébullition de l'époque. Il y a plusieurs commémorations qui sont en train de se faire autour de cet événement marquant-là, qui d'ailleurs s'est également produit un lundi. C'était un lundi, le 24 juillet 1967. Par contre, selon les images, on voit que ce lundi-là était beaucoup plus ensoleillé qu'aujourd'hui. Ça, c'est donc à ce moment-ci que les comparaisons doivent s'arrêter. Mais il y a toutes sortes de commémorations et de reconstitutions qui se font. À Montréal, c'est la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal qui s'occupe de ça. Je reçois aujourd'hui son président, Maxime Laporte. Monsieur Laporte, bonjour.
Bonjour, Monsieur Savard-Tremblay.
Alors, merci d'être avec nous. Alors, vous signez également, d'ailleurs, une lettre aujourd'hui même dans Le Devoir qui finalement fait un rappel peut-être un peu nostalgique de la grandeur passée de la France, parce que c'était une époque où tout autant la France que le Québec étaient en mode un peu reconquête, c'est-à-dire qu'on se retrouvait français et québécois.
Oui, ce texte, de la grandeur française en Amérique. Hein. Nostalgique sans doute, mais également dans une visée de réactualisation, puisque, d'ailleurs, cette émission s'appelle « Question d'actualité ». Ce n'est peut-être pas pour rien que vous m'avez invité. Vous savez, le Vive le Québec libre est toujours d'actualité. La question nationale n'est pas réglée. Si vous voulez mon avis, la réponse se trouve dans la question. Mais toujours est-il que nous vivons toujours, en ce moment, dans une situation où notre agir est subordonné à l'agir d'un autre peuple, la majorité canadienne anglaise. Et donc, on peut dire que les paroles du général en 1967 étaient sensiblement visionnaires et sont toujours pertinentes de nos jours.
Mais dites-moi d'ailleurs, quels sont les événements que vous organisez? Parce que j'ai cru comprendre que là, aujourd'hui, il y avait à 19h30 un événement à l'Hôtel de Ville. Et pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, pour les passionnés d'histoire qui voudraient revivre cette scène marquante, apporter un parapluie.
Oui, c'est peut-être un signe des temps. En effet, à l'époque, lors du discours au balcon, et il faisait très beau. Au début du parcours, moins. Donnacona, je pense en 67, le 24 juillet 67, il pleuvait un peu. Mais bon, on se retrouve avec une faible pluie, un temps un peu tristounet. À nous, en fait, de générer de la lumière à partir de ce fameux discours, effectivement, que nous allons reconstituer le temps d'une sorte de moulin à parole à partir de 19h30 devant l'Hôtel de Ville de Montréal. Plusieurs personnalités y participent et même que le général sera personnifié par un comédien, le comédien Denis Trudel. Il va faire son arrivée en Tesla et pas en Lincoln Continental.
Oui, alors pourquoi
comme à
Tesla? Est-ce que c'est pas c'est un peu particulier quand même si la reconstitution se fait avec une voiture ô combien moderne? Car à l'époque, on n'aurait pas pu envisager d'aucune manière un quelconque transport électrique. En tout cas, les voitures électriques étaient très très loin d'être dans un horizon envisageable.
C'est une question de mise en scène, mais aussi le message qu'on veut porter à travers cela, c'est de dire précisément que, bon, d'une part, le général, ce qui l'intéressait, c'était l'avenir, très clairement. Et je pense qu'il serait fort intéressé et enthousiaste à voir tout le développement industriel autour, des véhicules électriques et des nouvelles énergies. Lui qui était un spécialiste des chars, c'était des chars d'assaut.
Oui, oui.
Il avait prédit que la Seconde Guerre mondiale serait une guerre motorisée. Une chance qu'il était là, d'ailleurs, pour les forces alliées, pour la France, malheureusement, qui a été rapidement envahie. Mais il avait eu raison, il l'avait pas écouté. Et je pense qu'aujourd'hui, sans doute, peut-être, c'est difficile de faire parler les morts.
Parler les morts.
Mais peut-être qu'il arriverait en Tesla aujourd'hui. Du moins, en tout cas, il s'intéresserait certainement à cette industrie.
Donc, prédirait-il que la prochaine guerre mondiale se fera en char électrique?
Oh, non, bah ça, je... Ça, ce serait une autre question à aborder.
Absolument.
Peut-être que ce sera sur Internet, je ne sais trop. Les temps changent. Mais les temps changent, vous savez. Les époques passent, les idéologies passent, mais chose certaine, les peuples restent. Et la liberté, vous savez, c'est une très vieille idée, ce qui date de plusieurs millénaires. Et vous savez, quoi qu'on puisse en dire, la liberté, c'est encore un objectif fondamental dans la vie d'un individu comme d'un peuple. Alors, les paroles de De Gaulle sont porteuses de liberté, d'avenir. Et c'est la raison pour laquelle, quand on en reparle aujourd'hui, eh bien, ça doit résonner dans notre présent. Hein? Je me suis étonné de la réaction du premier ministre Philippe Couillard qui dit « Ah, le Québec est libre ». Alors, il va peut-être falloir qu'il relise les grands philosophes qui ont traité de la question de la liberté, notamment en politique, mais le fait est qu'en 2017, le Québec, en fait, n'est pas libre au sens que collectivement, nous vivons sous l'égide d'une constitution que nous n'avons jamais signée, que nous n'avons jamais entérinée.
Mais quand on écoute le discours du général et finalement l'ensemble des discours qu'il a fait le long du chemin du roi, il est en train de saluer une libération qui... sans dire qu'elle est faite, qu'elle est en train de se faire. Il dit, vous êtes en train de vous donner vos universités, vos écoles, vos usines, vos élites. Bref, il est en train de saluer le fait que ce peuple-là est en train de se construire complètement sa liberté, pourtant en étant en restant une province. Donc, est-ce que le général ne reconnaissait pas lui-même qu'on peut déjà faire quelque chose dans le présent cadre politique?
Nous étions en pleine révolution tranquille. Nous étions dans un processus évident d'émancipation. Cela dit, le général ne se satisfaisait pas de ces progrès qui sont quand même salutaires, puisque quand on écoute sa conférence de presse qu'il a prononcée à Paris, c'était au mois de novembre 1967, donc quelques mois après les événements, il est d'une clarté sans ambiguïté. Pour lui, il fallait que le Québec accède au rang d'État. Il fallait que le peuple du Québec dispose lui-même de son avenir. D'une part, parce que c'est une question, dans le fond, morale, fondamentale, mais c'est aussi dans l'intérêt de la France, c'est dans l'intérêt de la francophonie qu'il y ait un État français en Amérique du Nord. Il l'avait bien vu, et je le dis dans mon texte de ce matin dans Le Devoir, je suis certain aussi qu'il avait bien constaté que le régime d'Ottawa, en fait, se trouve finalement plutôt fragile, tout compte fait, vis-à-vis des pays naturels, des blocs géopolitiques qui évoluent de plus en plus, qui prennent leur place à l'international et dans tous les domaines. Les blocs géopolitiques qui se trouvent sur cette espèce de sous-continent qui est le Canada. Et le Québec, bien sûr, en fait partie, une économie quand même de plus en plus florissante. Mais le carcan canadien, comme le nommait René Lévesque, nous empêche malheureusement de véritablement tirer au maximum tous les avantages que nous procure notre statut, notre évolution politique.
Donc, de ce que je comprends, vos reconstitutions sont davantage dans une perspective militante que dans un devoir de mémoire, finalement. C'est davantage dans l'idée de réactualiser ces paroles-là à une époque où on dit qu'elles sont passées, qu'elles sont désuètes. Donc, c'est une manière de réactualiser ça dans le but de servir, vous, votre option constitutionnelle, finalement, votre option politique, davantage que d'un souvenir du discours général.
Ce serait un peu réducteur d'affirmer cela. Vous savez, la société...
Écoutez, je fais mon travail.
Ah, vous le faites très bien. Et je vais vous répondre. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, depuis 1834, est un chef de file en matière de commémoration. Mais bien sûr, nous faisons la promotion de l'histoire, mais d'une histoire engagée, puisque, l'histoire n'est jamais vraiment neutre. Et quiconque a étudié un peu dans ce domaine sait bien que même si c'est une science, c'est aussi un art, l'histoire. Alors quand, par exemple, Félix Couillard se remémore les événements du 24 juillet 1967, il le fait sous un certain angle, bien sûr. Mais le fait est que le président de la 5e République française, son fondateur, Charles de Gaulle, a dit ce qu'il a dit. Il a fait ce qu'il a fait et, ça a une signification et comme je l'ai dit plus tôt, c'est d'une clarté qui est évidente, en fait, pour quiconque s'est penché un peu sur ces événements-là. Donc, on peut pas passer à côté, on peut pas non plus taire, censurer l'histoire, comme, bon, a voulu faire, d'ailleurs, le maire Coderre en nous empêchant d'accéder au balcon, ce qu'on avait fait.
Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vouliez donc louer le balcon en vue de la commémoration de ce soir et ça vous a été refusé?
Oui, ben, y accéder, parce que dans le passé, on l'a déjà fait. Donc, en 1997, c'était le 30e anniversaire du Vive le Québec libre, et nous avions eu accès au balcon, pas nécessairement pour parler ou prononcer des discours depuis le balcon, mais pour l'aménager, le décorer, le mettre en valeur, y installer un micro, je ne sais trop. Bon, mais qu'à cela ne tienne, ça ne nous a pas empêché de planifier un événement qui va être d'une aussi grande qualité.
Donc, ce n'est pas au balcon, c'est où? Où est-ce que ça va se passer?
C'est simplement devant l'hôtel de ville.
Devant l'hôtel de ville.
Alors, on va avoir le balcon bien en vue.
Oui.
Et d'ailleurs, ben, c'est ça, on va préserver le caractère sacré au plan historique de ce balcon.
Mais plusieurs fédéralistes reconnaissent, parce que vous mettez ça vraiment dans une perspective très indépendantiste, mais plusieurs fédéralistes vont dire c'est un événement marquant, c'est un événement même salutaire. C'est sûr qu'à l'époque, ça avait été très mal pris à Ottawa. On avait même laissé entendre au général qu'il n'était pas le bienvenu dans la visite officielle qui était pourtant prévue. Il avait plié bagage, il était parti dès le lendemain. Mais plusieurs fédéralistes reconnaissent, disent qu'on apprécie ou pas le message « Vive le Québec libre », ça a fait connaître le Québec au monde entier. Donc, tous semblent s'entendre néanmoins que c'est un événement important de l'histoire du Québec.
Ah oui, qu'on soit fédéraliste, qu'on soit indépendantiste, en fait, peu importe notre positionnement constitutionnel, il va de soi que cet événement-là est marquant. Puisque pour la première fois de notre histoire, nous nous sentions exister proprement dans les yeux d'un autre. Alors, vous savez, les Québécois, jadis appelés Canadiens français, ont toujours vécu sous la tutelle, en quelque sorte, d'autorités tierces. Alors, que le chef de la vieille mère patrie vienne nous dire, ben, écoutez, il faudrait que vous fassiez verbe en ce pays, ce n'est pas banal, et même un fédéraliste, bien sûr, peut le reconnaître du moment qu'il reconnaît l'existence du peuple québécois, qu'il reconnaît que, ben oui, on a un combat national à mener, qui mène ou non au statut d'État bon, au sein du Concert des Nations. Toujours est-il effectivement que le Vive le Québec libre, ça a été une poussée historique formidable pour le peuple québécois.
Mais maintenant, 50 ans plus tard, avez-vous l'impression de prêcher dans le désert? Je me souviens, le 14 juillet, je recevais Yves Michaud à cette émission, qui a été délégué général du Québec à Paris, et qui, lui, justement, a travaillé activement au développement de ses relations Québec-France, comme nul autre, mais comme peu d'autres ont fait. C'est d'ailleurs sous Yves Michaud comme délégué que la place du Québec a été inaugurée à Paris. Et lui disait à un moment donné, toutes ces questions-là, finalement, d'affirmation sur la scène internationale, de souveraineté québécoise, il dit c'est des affaires de vieux radoteux, ça n'intéresse plus personne. Lui-même qui y croit disait ça. Avez-vous l'impression de prêcher dans le désert?
Non. C'est pas parce que c'est momentanément difficile que pour autant, bon, la cause en est venue à son terme ou quoi que ce soit. Pour ce qui est du positionnement international du Québec, on peut déplorer certainement que le gouvernement du Québec lui-même a fait fondre l'ensemble de sa délégation internationale.
Et la France elle-même, depuis Nicolas Sarkozy, a changé de position. Après De Gaulle appuyait l'indépendance du Québec. Les présidents suivants disaient plutôt « on reconnaîtra le résultat ». On accompagnera les Québécois, peu importe le choix qu'ils feront. Mais depuis Nicolas Sarkozy, on dénonce le souverainisme qu'on a assimilé au sectarisme.
Oui, bon, évidemment, je pense qu'il y a une grande confusion par rapport à ce qui se passe en Europe. Je pense que la question québécoise est moins bien comprise à l'Élysée qu'il y a un certain temps. Je suis d'avis que peu importe les politiciens en place à Paris, écoutez, la logique des faits et la logique de la stratégie d'État française me porte à croire que, écoutez, peu importe ce qu'ils disent, là, ça reste dans l'intérêt de la France, bien évidemment, qu'il y ait un État français en Amérique du Nord. Ça reste dans l'intérêt de la francophonie. Ça permet de faire contrepoids au bloc anglo-saxon. Et en ce sens-là, je pense que, en fait, De Gaulle a dit ce que tout le monde pensait tout bas. Mais force est de constater, en effet, que, bon, on pense tout bas de plus en plus. En fait, on est vraiment rendu là, au fond du baril à cet égard-là. Mais il y a encore des voix en France, des gaullistes, des gens d'un peu toutes les tendances. Même un Mélenchon serait peut-être pas fermé à l'idée de reconnaître que le Québec doit progresser sur la voie du statut d'État. Là.
Mais très rapidement, Maxime Laporte, vous avec la Société Saint-Jean-Baptiste, est-ce que vous travaillez à rétablir ces relations-là qui, selon vous, ne sont plus entretenues par les officiels des deux gouvernements? Non. En quelques secondes, s'il vous plaît.
Ben, c'est-à-dire que la société a une porte internationale. Vous voyez, on va être en novembre à Paris pour faire participer à un colloque avec l'Institut de Gaulle. Mais non, notre rôle, c'est pas nécessairement d'interpeller les chefs d'État et tout ça. On va laisser ça au gouvernement du Québec. Par contre, nous pouvons faire pression sur notre premier ministre et notre ministre des Relations internationales afin de faire valoir les intérêts et le statut du Québec à l'international.
Alors, Maxime Laporte, président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, merci d'avoir été avec nous.
Merci avec vous.
Alors, c'est donc ce soir, si vous voulez revivre un moment historique, que la reconstitution du discours du général de Gaulle aura lieu à l'Hôtel de Ville de Montréal, non pas depuis le balcon, mais depuis la cour, depuis l'avant-cour. Alors, c'est à 19h30. Maxime Laporte, on peut également lire votre lettre aujourd'hui dans Le Devoir. Merci encore une fois et merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve dès demain.